vrai que ceux qui sont en arrière, vous manquez quelque chose, parce qu'assis en avant, toute l'église qui chante en arrière, là, c'est assez impressionnant. Donc, ce matin, le passage, c'est dans Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 17. Donc, dans Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que sa parole soit bénie.
Alors, bon matin à chacun. Comment ça va, les extraterrestres hybrides? Êtes-vous en forme? J'ai tenu à lire la parole de Dieu au complet pour notre chapitre 3. Et je n'ai pas la prétention ce matin de faire tout ce qu'on vient de lire. On va faire les quatre premiers versets. Parce que si on manque les quatre premiers versets de ce groupe de textes, on manque tout le reste. Et vous savez comme moi qu'il y a dans notre société des terminologies qui sont intéressantes. Et j'hésitais avec le texte, j'ai dit, ils vont probablement me faire lapider avec extraterrestre, c'est tellement péjoratif. Mais en regardant dans le dictionnaire la définition d'un extraterrestre, je reste surpris. Savez-vous ce que c'est un extraterrestre? C'est quelqu'un qui ne tire pas son existence de la Terre. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'oxygène, pas besoin d'eau, pas besoin de protéines, pas besoin de rien. Rien que ce que sa planète Terre peut soutenir la vie de cette personne-là. Donc, l'adjectif extraterrestre vient, en fin de compte, avec Hollywood. On est en voie avec des grands coups, des grosses têtes, des gros bras, des petits bras. Tu vois, toutes sortes de manières. Cette métaphore que je voudrais apporter ce matin... va nous rejoindre comme chrétiens avec le texte que nous allons lire. Parce que dans le fond, on est humain, on est sur la terre, puis dans le fond, on est avec Dieu. Éphésiens 2,6 nous dit qu'on est assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Oui, on a besoin d'oxygène, on a besoin de nourriture, oui, mais l'autre côté, oui, on a besoin de nourriture spirituelle pour notre âme intérieure. Et à fin de compte, on s'aperçoit que si on s'assit d'un bureau de psychiatre, on la regarde dans les yeux et on lui dit « Jésus-Christ habite en moi ». La seule raison qui ne nous renfermera pas, juste une raison, même ne deux, mais une qui est double, la seule raison qui va nous laisser sortir du bureau, c'est que on n'est pas violent envers nous-mêmes, on n'est pas violent envers les autres, et on fonctionne dans la société. Et c'est le critère. Vous vous demandez pourquoi il y a du monde pas mal bizarre qui se promène sur la planète Terre, c'est que la Bible des psychologues humanistes, c'est que si tu fonctionnes en société sans te faire mal à toi et sans faire mal à eux autres, on va te laisser aller. Alors, tu peux croire que tu es le descendant de Napoléon, tu peux croire n'importe quoi, c'est pas grave. J'avais un de mes cousins qui faisait avoir son maximum du bien-être. Il allait voir le Doc Mayou. Et puis, il citait la parole de Dieu. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Mayou, il arrivait, chiquin. T'es pas apte au travail. Intéressant, hein? À quelque part, on est des bizarroïdes. On est bizarre quelque part. Et c'est pour ça que, quand je parlais d'hybride, là, oui, il y a la Prius, oui, il y a l'électricité, puis le gaz ensemble, puis... Il y a aussi les choses hybrides, là, que... le zébrin, là, qui est un zèbre et un âne mélange. Il y a plein de choses, hein? Dans le règne animal, il y a toutes sortes d'hybrides. Fait bizarre, pareil, tu vois les jambes d'un zèbre sur un âne. C'est un hybride. Je me demande ce qu'il pense quand il regarde dans le miroir. Il est bizarre. Les autres ânes arrivent auprès de lui puis ils disent ouais, « Comment se fait ça, toi? T'as des pattes de même. Comment se fait ça? Tu fais ça? Comment se fait ça? Tu fais ça? » Et là, il y a toutes sortes de réflexions sur la manière qu'il utilise ses jambes bizarres. Mais pourtant, il dit aux autres ânes, hey, « Mais je suis un âne. Oui, mais il faut admettre que je suis aussi un zèbre. » Vous savez, il y a aussi les hybrides, le mariage entre l'auto et le vélo, là. C'est populaire, l'hybride. Populaire aujourd'hui. Puis, ça m'a amené à réfléchir sur moi-même, que je fais depuis un an et demi, un an environ, ma femme a dit, Michel, elle a dit, c'est sûr, tu ne perdras jamais ta bédaine, tu es trop penseux. Regardez dans la parole de Dieu ici. Les quatre premiers versets. Pourquoi j'ai lu tout le contexte? Pour mettre du poids à ce que je vais dire. Pour vraiment ce que je vais dire, que ça soit vraiment contextué. Vous savez, le contexte. On peut entendre une affaire, on peut lire une chose, mais si on n'a pas le contexte, on peut déduire, conclure, présumer, affirmer des choses qui ne rentrent pas tout à fait dans le contexte. Et là, on est dans un contexte d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Un avant et un après. Et chapitre 3, verset 1 nous dit ceci, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Maintenant encore, je le répète, ces quatre versets, si vous sautez par-dessus ces quatre versets-là, le reste des textes ne veut rien dire, n'a pas de sens. C'est bizarre. Il y a une sorte de chose qui émane de cela, qui nous met, nous, chrétiens, hybrides, étant au ciel sur cette terre, et toutes ces images du Nouveau Testament qui nous parlent de notre marche chrétienne, notre nouveauté de vie, vient rejoindre l'enseignement qui est donné au chapitre 3 de Colossiens. Extrêmement important. Donc, je vous propose ce matin ma nouvelle vie hybride. Je vous propose que vous avez une vie hybride. Vous, chrétiens, nés de nouveau par la grâce de Dieu, vous qui avez placé votre foi seule dans le sacrifice Jésus-Christ seul, vous êtes devenus des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez une perception de la lecture de ce monde d'une manière différente. On appelle ça « the world view » en anglais. Vous avez une manière de voir les situations d'une manière différente parce que vous les voyez avec cette réalité que vous êtes des hybrides. Vous êtes nés d'en haut. Jean nous l'enseigne, nous dit « il faut naître de nouveau ». Et dans l'original, c'est d'en haut. On est né d'en haut et né d'en bas en même temps. Et quoique nous allons vers une glorieuse fin, parce que nous évaluons notre vie non pas par rapport à notre pèlerinage terrestre, mais nous évaluons notre vie par rapport à l'éternité. Nous allons vers une glorieuse fin. Et un jour, 1 Corinthiens 15 nous parle, n'est-ce pas, de ce corps spirituel, ce corps où la présence du péché ne sera plus là. Mais, au moment où on se parle, dans ce mois de mai 2012, on est des hybrides. Première chose qu'on doit vraiment réaliser, et c'est très clair, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, Paul fait attention, puis il veut mettre l'emphase sur un fait. Vous l'êtes? Vous dites vous l'êtes? Vous promenez avec des grosses bibles en dessous du bras? OK. Vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel? Parfait. Vous vous dites chrétien? OK. Rappelons-nous que nous sommes ressuscités avec Christ. Et là, ça va rejoindre ce que Paul nous dit dans Romains 6:6. Ça nous rappelle qu'on est mort avec Christ, qu'on est ressuscité avec Christ. Ce soir, il va y avoir un baptême. Quelle belle image de la nouvelle vie, n'est-ce pas? Le baptême qui nous enseigne, en fin de compte, quoi? Cette métaphore, cette belle image qui nous montre que celui qui a placé sa foi seul, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, il est entré dans l'eau, il est mort avec Christ, et lorsqu'il sort de l'eau, c'est le symbole qu'il est ressuscité avec Christ. Nous sommes une nouvelle humanité. On n'est pas des humains normaux. Jean 17 nous dit, « Père, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas de ce monde. » Et pourtant, il y a tellement de pression sur l'Église, sur ma vie, de ressembler au monde avec sa mentalité, ses manières d'agir. Le monde qui me dit de me faire pousser la moustache en bas des babines plutôt qu'en haut des babines. Le monde qui me dit comment m'habiller. Le monde qui me dit, c'est quoi l'amour avec un grand A? Guillaume Lepage, c'est lui qui va vous dire ce qui est acceptable dans la société avec tout le monde en parle le dimanche soir. Et les vedettes de ce monde passent et donnent la moralité, donnent ce qui est correct, donnent ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça a une pression dans l'Église. Et cette ecclésia, une fissure dans l'ecclésia, où la chair entre, une fissure dans ma vie, où la chair entre, et ce combat spirituel que nous menons, nés sur cette terre, nés d'en haut, nous vivons une vie hybride, et la première vérité, frères et sœurs, qu'on doit se rappeler, c'est que on est ressuscité avec Christ. On vit notre vie par rapport à Christ ressuscité qui habite en moi. Je vis ma vie au travers de Christ. Christ vit ma vie au travers de moi. La parole nous exhorte en 3B, cherchez, impératif, actif, présent, cherchez les choses d'en haut. Et on s'entend-tu que ce n'est pas comme chercher des choses d'en haut, comme aller chercher un Big Mac au McDonald's, ou ce que tu rentres dans le stationnement, tu demandes dans le petit micro quelque chose, tu sors à l'autre bout, tu payes de l'argent, puis tu donnes ton hamburger. Chercher. Dans quel sens chercher? Qu'est-ce qu'il veut dire chercher des choses d'en haut? Y a-t-il une échelle assez longue pour aller en haut? Mais non! Quand il dit chercher, ça veut dire y mettre l'impératif de vos vies, de vivre en hybride, en vivant la vie de Jésus à travers nous. Chercher des choses d'en haut. Où? L'endroit. Christ est à la droite de Dieu. Intéressant, hein? Position de puissance dans l'Ancien Testament. Droite. Éphésiens 2:6 nous dit qu'on était si à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous? Vous pensez que vous êtes inquiète, hein? Non, non. Vous êtes assis en même temps à la droite de Dieu en Jésus-Christ. C'est-tu bizarre? Gang de bizarre. C'est extraordinaire. Je suis ici, là. Je suis hybride. C'est important, tout ça. Et c'est important ce matin de y réfléchir comme il faut. On est de ceux qui cherchent les choses d'en haut. On est de ceux qui cherchent, à travers nos vies, traduire la vie de Jésus. Deux mains pour servir le maître. Deux pieds pour aller partout. Que le Seigneur nous fasse réaliser qui nous sommes et notre priorité, l'impératif de nos vies, c'est de ne plus être comme ce monde, mais vivre selon les normes bibliques, les normes d'en haut, les normes spirituelles. Et c'est ce que, ici, l'apôtre Paul veut nous enseigner. Deuxième chose, on a une nouvelle disposition intérieure. Des fois, vous posez peut-être la question, c'est quoi la différence entre un chrétien puis quelqu'un qui est chrétien d'apparence? C'est quoi la différence entre une fleur qui est vraie puis une fleur de plastique? Croyez-le ou pas, là, il y a des fleurs de plastique, c'est tellement réel, là. Je me fais pogner à tout coup, moi je pense toujours que c'est des belles fleurs, là. Je ne parle pas des faunés au dollar store, là, mais des vraies fleurs là, qui sont vraiment un simili exact de la fleur réelle. Bien, si on pourrait rentrer là, dans le cœur de la fleur, là, ben, c'est là qu'on verra la différence. Attachez-vous aux choses d'en haut, au nom à celles qui sont sur la terre. Et à quelque part, c'est le défi, n'est-ce pas? Une disposition intérieure où nous allons choisir de s'attacher aux choses qui viennent de Dieu, à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Enlever la Bible, on n'a plus d'autorité. Enlever ce que Dieu dit, on est tous une gang qui ne sait pas quoi faire. Et c'est des choses d'en haut, c'est des choses que Dieu veut pour ses hybrides. C'est une instruction qui vient de Dieu, c'est un appui qui vient de Dieu, c'est un guide solide et sûr, les choses d'en haut, écrites dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Dieu nous parle. Car la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, qui sépare moelle hein, et os, esprit et âme, qui juge les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. Hébreux 4:12. Regardez une autre traduction qui dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Seconde 1910, revisé. « Affectionnez-vous, aimez les choses d'en haut. » Tomber passionnément en amour avec la parole de Dieu. Mes amis, il y a aussi l'idée, et notre fiable monsieur Darby, qui est dur à pogner dans les traductions de verbes en français. Pensez aux choses qui sont en haut, non à celles qui sont sur la terre. Regardez, lorsqu'on regarde ce petit mot phronéo là, que tout le monde se bat avec, c'est le contexte qui détermine vraiment ce que ça dit. Mais regardez, dans votre Nouveau Testament, là, ce petit mot qu'il y a là, il est traduit « chercher, penser, concevoir, s'affectionner, revêtir de sentiments, aspirer à distinguer, agir, comportement intérieur. Et frères et sœurs, c'est le fait que nous sommes nés d'en haut, que nous devons, nous, avec cette nouvelle disposition intérieure, voir clair, voir les choses comme Dieu les voit, et c'est terriblement difficile. Hier soir, avec un jeune couple qui vont se marier bientôt, j'ai fait le dessin. Je mets l'homme, la femme sur un bord, je mets Dieu en haut, je mets le problème dans le milieu. Puis, savez-vous ce qui est le plus dur? C'est qu'un a sa manière de voir le problème, l'autre a sa manière de voir le problème. Puis on ne se pose pas la question, comment est-ce que Dieu, lui, voit le problème? Parce que dans le fond, mon autre sac en bas, c'est ensemble, on doit voir la même chose que Dieu. Voyez-vous? Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est en cherchant, en pensant, en concevant, à s'affectionnant, à se revêtir des sentiments, aspirer à se distinguer, à agir, à avoir un comportement intérieur de ma nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est la seule manière, on ne s'en sort pas. Je m'excuse. Troisième chose, une nouvelle motivation. Vous savez, car vous êtes mort. Qu'est-ce que c'est, mort? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis mort, pas mort, moi. J'ai mangé un matin, j'ai respiré de l'air. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre ancienne vie, votre ancienne manière de voir, vos anciennes affections, votre ancienne manière de concevoir les choses, vos anciennes pensées, avant d'accepter le Seigneur que vous aviez, c'est mort à ce style de vie. Ce corps de chair qui est une usine à fabriquer le péché, ce corps-là doit être maintenant utilisé pour traduire les choses d'en haut que Dieu veut qu'on traduise afin d'être une gloire pour Dieu. C'est ça que la Bible enseigne. Pensez pas que c'est sur cette terre que notre vraie vie va être dans son potentiel grandiose révélé au monde. C'est lorsqu'on va avoir ce corps spirituel enlevé de la présence même du péché. Alors, 1 Jean 3:2, hein? Lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Mais en attendant, rappelons-nous que notre motivation maintenant, c'est le fait que je suis mort au péché qui si facilement veut contrôler ma vie. Voir les choses comme Dieu les voit. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ. Vous savez, on a des petits cantiques, souvenez-vous. Mort avec Christ, d'une mort volontaire, déjà au ciel, sur cette terre. Il y avait des hybrides même là. Même quand on chantait un chant de victoire, il y avait des hybrides. Mes amis, on est en train de marcher vers l'éternité. On n'est pas dedans encore. On est encore une nature pécheresse. On est encore faillible. On doit apprendre à aller tous à l'école de la parole de Dieu. Et le questionnement, oui, beaucoup de questions. Paul va répondre à ce question-là en disant, « Vous avez connu la mort. » Dans Galates 6,14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Monde, compte pas sur moi pour danser à ta musique. Expression en parenthèse. Compte pas sur moi pour penser ce que tu penses. Compte pas sur moi que je vais agir comme tu veux que j'agisse. Compte pas sur moi, monde, qui est un inimitié contre Dieu, qu'il veut l'entendre. Ils veulent détruire Dieu. Et ce que Dieu dit, monde, compte pas sur moi. Compte pas sur moi, je suis mort. Vous connaissez la vieille histoire de l'ivrogne qui était décédé? Puis il y a son grand chum qui portait sa brosse avec, est arrivé avec un six-pack au salon funéraire. Puis il a mis le six-pack près du cadavre. Le gars dit, si tu fais là, il est mort. Il dit, je n'étais pas sûr, mais là, je suis certain. Il est mort. Le monde est crucifié pour moi comme, hein? Je le suis pour le monde. Le monde ne compte plus sur moi. Une nouvelle disposition, une nouvelle dispensation, une nouvelle administration. Et c'est mon dernier texte. Regardez bien ce texte-là, là. C'est embêtant ça. Et là, ça nous donne une perspective éternelle. Puis cette perspective éternelle, c'est que quand, un temps, votre vie paraîtra comme qui se supposait d'être dans la finalité, sauvée de la présence même du péché, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Et là, moi, là, je vois, j'entends des cloches de mariage. Ding, dong, l'épouse de Christ. Qui va être un jour présentée sans ride, ni tache, ni rien pur. Mais avant cela, là, mes amis, là, c'est qu'une trompette qui sonne. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous, les vivants qui sommes restés. Hein? Pour le Seigneur, on va rejoindre dans les airs. Pour être toujours avec le Seigneur aux noces de l'agneau. On n'est pas rendu là. Et là, rendu là, regardez bien. Et c'est pour ça que maintenant, donc j'agis motivé par ma nouvelle humanité. J'agis motivé par ma nouvelle disposition intérieure. J'agis motivé par ma nouvelle motivation. J'agis motivé avec ma nouvelle disposition. Dispensation. Administration. Je ne voulais pas prendre le mot dispensation parce que ceux qui parlent d'eschatologie, là, il y a les A-mille, il y a les A-mille, il y a les pré-mille, il y a les post-mille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, ça finit tout ça. Un jour, on se ramasse tout à la fin. Il y a une ligne qui est tracée là. C'est une nouvelle administration. On n'est plus là avec notre nature pécheresse. On est l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est l'apogée de l'Évangile où ce qu'on est déclaré juste par le Père à cause du sang précieux de Jésus-Christ seulement. Et regardez bien ce que je vais en venir avec tout ça. C'est qu'à quelque part, on doit discerner dans cette bataille, dans ce combat spirituel, on doit discerner nos dieux fonctionnels. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'allume? Mon dieu fonctionnel entre en compétition avec le dieu proclamé. Quand le dieu proclamé dit le contraire à mes petits dieux, fonctionnel, la manière que je fonctionne dans ma vie. C'est quoi qui ne marche pas? Les non-croyants sont entièrement animés par des motifs qui ne proviennent pas de Dieu. On est tous d'accord avec ça. Êtes-vous d'accord? Faites un petit signe, ça me rassure. Ils sont morts dans le péché et leurs offenses, Éphésiens 2:1, n'est-ce pas? Des zombies spirituels, une autre image, là. Pensez pas au film. J'ai vu des zombies à TV hier. Ils faisaient une marche. Avez-vous vu ça? Non, je ne regardais pas à TV. C'est intéressant de voir les gens comment ils sont capotés. Les croyants, et c'est là peut-être que vous ne serez pas d'accord. Les croyants véritables, c'est pas le monde, ce n'est pas des non-croyants, ce n'est pas des enfants du diable. Là. Les croyants véritables sont souvent gravement compromis, distraits et également divisés par leur Dieu fonctionnel. À moins que vous ne faites plus encore de péché, là, vous pouvez vous identifier avec ça. Moi, je m'identifie très, très bien avec ça. Puis l'expression québécoise, c'est quoi? Ça, moi, j'ai tout de me dire avec ça. J'étais à Saint-Jean-Chrysostome, c'était la même affaire, là, un mois. Ça voulait tout m'arracher. Mais voyez-vous, à fin de compte, l'expression québécoise de ça, c'est que les bottines ne suivent pas les babines. Tout le monde dit ça, ça fait longtemps que je le dis, mais c'est exactement la même affaire. Tu peux avoir le Dieu proclamé dans la parole, mais tu te vires d'abord le lundi matin, puis c'est l'Évangile du monde qui prend le dessus. Et là, tu penses comme J.A. Lepage, tu penses comme le monde pense, tu agis comme le monde agit, et il n'y a plus de différence entre l'Église et le monde. Excusez, là, vous êtes des hybrides. Le zébran, là, avec ses quatre pattes, là, il n'y a pas personne qui ne sait pas que c'est un hybride. Voyez-vous, à quelque part, on est une nouvelle humanité, une nouvelle créature, qu'on doit extérioriser en traduisant qui nous sommes parce qu'on est né d'en haut. Voir au-delà des comportements et des émotions pour exposer nos motifs devant Dieu. Ça comprend quoi? J'ai dû le faire dans ma vie, ça. En passant, là, c'est pas nouveau, là, ce que j'ai là, c'est tout dans ça. Je vous le recommande, il est dur à lire, je l'ai lu deux fois et demi, deux fois trois quarts déjà. Je l'ai lu deux fois. David Paulison, ça vient de lui. J'aime mieux un titre en anglais, par exemple, qui s'appelle « Looking through the eyes of scriptures ». C'est vers une nouvelle relation d'aide renouvelée. Et si vous voulez vraiment réfléchir, il y a quelqu'un à lire, ce gars-là. Puis lui, c'est ce qu'il dit, là. Une réorientation de nos motifs à travers la grâce de Dieu. Aller devant Dieu seul et courageusement questionner nos motifs. Courageusement, c'est faire du courage. Notre Dieu proclamé et notre Dieu fonctionnel ne font qu'un. Et lorsque je découvre que mon petit Dieu fonctionnel contredit le Dieu proclamé, je donne priorité à quel Dieu? Le Dieu proclamé, n'est-ce pas? Non? Oui? Ben oui. Alors, quand j'ai fait ça, tout le reste du texte, 5 à 17, a pris du sens. Et là, ça a du sens. Faire mourir, renoncer, dépouiller le vieil homme, revêtir l'homme nouveau, revêtez-vous, soyez reconnaissants que la parole demeure, verset 16, dans toute sa richesse. Tout le reste du texte, il y a du sens. Parce qu'on est des hybrides. Parce qu'on va au-delà du geste, au-delà du choix, on regarde le cœur des cœurs, nos motivations. Et il y a 35 questions ici. Peut-être que vous avez une décision à prendre. Moi, j'ai eu des décisions à prendre très difficiles. Il y a 35 questions commentées avec les versets bibliques à côté. J'en ai sorti quelques-uns pour terminer. Je ne voudrais pas vous ébranler trop, mais vous savez que la décision est secondaire. Ce qui est important, c'est la motivation qui vous fait décider. C'est ça qu'on doit examiner. C'est ça qu'on doit tester. C'est ça qu'on doit mettre devant les Écritures. Regardez, posons-nous la question. De quoi croyez-vous avoir besoin? Dans ton cœur des cœurs, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Je ne les commenterai pas, ça serait trop long, on aura fini. Quels sont vos besoins ressentis? C'est quoi tu penses que tu as vraiment besoin, sinon là, tu ne peux plus vivre, là, tu sautes en bas du pont? C'est quoi vraiment, qu'avez-vous envie de faire? C'est quoi vous voulez faire dans le fond? Tu veux-tu aller en Afrique? Tu veux-tu aller en Espagne? Tu veux-tu sauter en parachute? Tu veux-tu apprendre comment nager autour de l'eau? 10 minutes. J'ai vu un gars qui apprenait à rester sous l'eau. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde tes motivations. C'est quoi ton but? Que recherchez-vous? Que visez-vous? C'est quoi votre objectif? Avez-vous des objectifs? Avez-vous des objectifs? Regardez, que voulez-vous? Que désirez-vous? C'est quoi votre désir? Pensez-y, là. C'est quoi vraiment les choses qui s'accordent avec le Dieu proclamé? Regardez, une autre question, je trouve ça le fun. Qu'aimez-vous? Qu'est-ce que vous détestez? Savez-vous que cette question-là là, est énorme? Hein? Ça va jusqu'au premier commandement de Dieu. C'est quoi le premier commandement de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Est-ce que tu détestes le péché? Est-ce que vraiment dans notre vie traduite tous les jours, on vit en détestant le péché qui si facilement nous enveloppe, l'étendue, la gravité des péchés dans nos cœurs? Est-ce que vous détestez ça? Est-ce que vous détestez le péché afin de prendre des bonnes décisions dans vos vies? Quels sont vos objectifs et vos attentes? C'est-tu des objectifs et des attentes égoïstes? Ou pour la gloire de Dieu? Et le Dieu proclamé? Voyez-vous, je vais aller plus vite. Quels sont vos projets, vos stratégies et vos intentions conçues pour réaliser vos objectifs? Est-ce que c'est le Dieu proclamé qui vous guide dans tout cela, vos projets? Vos stratégies que vous faites là? Vos intentions? Est-ce que c'est le Dieu proclamé qui vous guide? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous guide dans ces réflexions intérieures? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous fait carburer? Qu'est-ce qui vous excite? Un bon combat de boxe. Ça, c'est excitant. Ça, là, tu vois les gants de boxe, le nez saigne, puis il y en a qui sont émus, puis il y en a qui pleurent. Puis, ah, ça, c'est excitant, ça. Ça en prendrait plus que ça, des réunions de même. Qu'est-ce qui vous excite? Si c'est autre chose que la gloire de Dieu dans vos vies, dans notre Église, dans ma vie, mes amis, on est à côté de la traque. Ce qui devrait nous exciter, c'est la gloire de Dieu traduite dans ma vie, à moi, dans vos vies, dans la vie de l'Église, au Québec, dans le monde. Où se trouve le jardin de vos délices? Tu sais, ce petit jardin là, dans les toilettes là, que personne ne vous voit, là, dans le garde-robe caché. Là. Qu'est-ce qui fait marcher la dopamine dans votre cerveau? Qu'est-ce qui vous excite? C'est quoi vos délices? C'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Heureux ceux qui trouvent leur plaisir, qui fait activer la dopamine en étant dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui illumine votre vie? Je me souviens, Rav Chalice avait dit une fois, il dit, pensez à votre épitaphe. Je pensais à ça souvent, là, en Irlande. Pensez à votre épitaphe. Qu'est-ce qui va être écrit dessus? Si tu diras à des personnes, écrivez ce que vous voulez, ce que vous voyez chez moi. Qu'est-ce que vous allez écrire dessus? Moi, je pourrais écrire, « Hey, l'homme le plus merveilleux du monde, il a enduré sa femme. » Henri de Tsadian. Non, mais comprenez ce que je veux en venir. Mais les autres diraient peut-être, « Ouais, gros bouffon en avant. » D'autres diraient peut-être, « C'est un... » Je ne sais pas, ça doit faire. En tout cas, je ne vous donnerai pas d'idée. Diane m'a averti de ne pas trop me diminuer, parce que dans cet incite, je suis porté à faire ça pas mal. Mais vous comprenez l'idée? C'est des très bonnes questions. Qu'est-ce qui illumine vos vies? Qu'est-ce qui caractérise vos vies? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, 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 vraiment? Tu sais, il y a deux fois qu'on s'en fout. Moi, j'ai dit à Diane, écoute, tu peux peinturer les murs de la maison noir, jaune, n'importe comment, je m'en fous, dans l'an 40, fais ce que tu veux. Mais mes petits papiers que j'ai dans mon bureau, tout pêle-mêle, là, tu ne vas pas toucher à ça. Qu'est-ce qui compte vraiment si ça vient toucher à mes papiers? C'est que je l'aime tellement que même si ça touche à mes papiers, ce n'est pas grave. Puis en fin de compte, puis je termine avec ça, vous souvenez-vous de ce vieux cantique? Te ressembler Jésus. Moi, là, c'est mon cœur depuis des mois. Ressembler au Seigneur, c'est mon espoir suprême. penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi. Je vous invite de lever debout pour terminer. Puis, offrez-le au Seigneur dans la prière. Ça serait-tu beau si demain matin, on se leverait tous des petits Jésus ici, au Cap, là? Salut Jésus, bonjour Jésus, ça va bien Jésus, goodbye Jésus.